mots des religions. On retrouve Haïm Korsia pour les mots de la Torah.
Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
On parle du doute aujourd'hui. Est-ce que le doute, c'est seulement le contraire de la confiance et de la foi, ou est-ce qu'il y a dans la Torah d'autres interprétations possibles du mot doute? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul mot d'ailleurs pour le dire? Je me méfie toujours parce que chez les Hébreux, je vois qu'il y a beaucoup de mots utilisés pour dire la même chose. Mais ou
alors,
presque.
Votre question est multiple et complexe. En hébreu, le mot doute se dit safek. Et c'est vrai que le mot doute est un mot a priori négatif. Je doute. Mais on connaît la formule depuis Descartes, je doute. Donc Dieu est. Dubito ergo des est. Et donc le doute nous amènerait à la croyance en Dieu. Et si vous me demandez de parler de l'hébreu, vous permettrez que je vous parle du français, qui est une langue, si ce n'est sainte comme l'hébreu, au moins inspirée, une langue de génie. Le français, dans sa grande sagesse, parle du doute comme une très forte probabilité. Je vous explique. Vous voyez, dehors, il fait beau. Vous voyez qu'il ne pleut pas. Donc vous dites, il ne pleut pas. C'est clair. Il pleut. Vous dites, il pleut. Il ne pleut pas. Vous dites, il ne pleut pas. Par contre, si vous êtes dans une pièce fermée et que vous supposez qu'il ne pleut pas, vous dites...
Je doute qu'il pleuve.
Non. Je crois qu'il fait beau.
Ah bon?
Ou si vous pensez, vous supposez qu'il pleut, vous dites je crois qu'il pleut. Mais vous remarquez que quand vous dites je crois qu'il pleut...
Oui, c'est qu'on n'en est pas sûr. C'est le mot croire qui est utilisé.
Donc vous voyez bien
en
que
doute,
le
oui.
mot croire instille une forme de doute.
Oui.
Et je pense que ça me paraîtrait tricher sur le mot que de dire je crois en Dieu, il n'y a pas le même doute. Donc le doute est consubstantiel à la foi. Et de vous à moi, je me suis toujours méfié des gens qui ne doutent jamais.
Tant mieux pour ceux qui doutent, on est peut-être
mais
plus
parce
nombreux.
Que douter, c'est être capable de se remettre en question de temps en temps. Et on a connu des gouvernements que la France s'était donné, où les chefs de ces gouvernements ne doutaient pas. Et donc forcément, tous les autres avaient tort. Et je pense que d'avoir raison seul dans son coin, ça ne sert à rien. Surtout quand on est chef du gouvernement.
Absolument, oui.
Donc, si vous voulez, la Bible dit la même chose. Elle dit, le doute quant à la foi est naturel. Et elle le montre dans des exemples. Abraham doute. Moïse doute.
Oui, il y a des grands personnages qui doutent,
je pense que
justement.
Tous les grands personnages bibliques, tous les patriarches doutent.
Doutent, oui.
Mais ils doutent de quoi? Ils ne doutent pas de Dieu.
Ils doutent d'eux-mêmes,
voilà.
Plutôt. De leur propre foi, de leur
non,
propre...
Non, ils doutent de leur capacité à savoir répondre aux attentes de Dieu.
Ou
c'est comme
peuple,
si, par exemple, vous demandez, est-ce que je peux courir le 100 mètres en 10 secondes? J'en doute. Si je vous aime beaucoup, je vais essayer. Parce que vous me dites, mais je sais que tu peux le faire. Et Dieu dit au patriarche, je sais que tu peux le faire. Et eux, ils disent, mais mon Dieu, j'arriverai pas à répondre à ton attente. Tu attends tant de moi. Et Dieu leur dit, mais ce que je demande, ce n'est pas que tu réussisses, c'est que tu essayes, que tu aies confiance en moi. Et en quelque sorte, si tu te lances dans une aventure que je te demande de suivre, c'est l'exemple d'Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays, va où? Vers la terre que je t'indiquerai. Il ne lui dit pas où? Vers la terre que je t'indiquerai. Si Abraham avait dit, tu es mon Dieu, tu es gentil, moi, tant que je ne sais pas d'où je suis, où je vais, je ne démarre pas, il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu des peuples hébreux, nous ne serions pas là tous les deux. Par contre, voilà un homme qui dit, je ne sais pas. Mais je m'interdis le doute par rapport à Dieu, je ne m'autorise le doute que par rapport à moi. Est-ce que mon Dieu, je saurais être digne des attentes que tu as envers moi? Et je crois que ce doute-là est un doute légitime, parce que finalement, l'inverse du doute de ce point de vue-là, ça deviendrait l'orgueil. Mais comment? Bien sûr que je réussirai, puisque Dieu m'a demandé ça, c'est que je peux. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est qu'un homme qui doute est un homme qui est capable en permanence d'adapter son comportement, sa vision du monde, à la réalité de la vie. Et ça me paraît plus sain.
Oui, est-ce qu'on peut considérer par exemple que Ève, qui aurait été tentée ou qui aurait succombé à la tentation, elle a douté, elle, justement, de la promesse, ou elle a douté, non? C'est pas ce cas de figure?
Si.
Est-ce qu'elle, c'est le doute, justement?
Je vous raconterai un midrash qui dit une chose magnifique sur Ève. Qui est le coupable dans l'affaire? Ils sont pas beaucoup, hein. Il y a Ève, Adam et le serpent. Tout le monde dit, Ève a été tentée par le serpent. Et puis ensuite, elle a réussi à convaincre Adam. Donc on a notre coupable, on a le mobile, on a tout. Le Talmud dit une autre chose, et il cite le Midrash à ce moment-là. Le Midrash dit la chose suivante, le coupable c'est Adam. Quand vous regardez le texte, Dieu dit à Adam, ne mange pas de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, qui se croit supérieur à Ève, alors que l'homme et la femme sont dans une position d'équité absolue, Adam, qui se croit supérieur à Ève, se dit « Cette pauvre fille, elle est née après moi, puisqu'elle est née de moi, donc elle comprend rien. » Et donc, elle comprend rien parce que c'est une femme, ce qui est grave. Et puisqu'elle comprend rien, je vais lui faire bien, je vais bien la briefer. Et il lui dit, regardez le texte, tu n'as pas le droit d'en manger ni d'en toucher.
Il en rajoute un peu, là. Hein?
Il en rajoute. Alors, le serpent rit, mais dit à Ève, c'est du chiquet, c'est faux ce qu'il t'a raconté. La preuve, regarde, tac, il la pousse contre l'arbre. Elle touche l'arbre, il ne se passe rien. Elle se dit, si ce qu'il m'a dit sur le toucher est faux, alors ce qu'il m'a dit sur manger est aussi faux, et elle mange. Et là, elle va voir Adam, elle lui dit, il ne s'est rien passé.
Donc elle a douté d'Adam, elle, en tout cas.
Non, Adam a douté d'elle.
Ou Adam a douté d'elle.
A douté.
Pas de la même façon.
Et là, je crois que peut-être votre question ouvre cette logique. Douter de Dieu, ça rime à rien. Douter de soi, ça me paraît sain. Douter des autres, c'est criminel. Et je crois qu'on arrive à une trilogie qui nous amène à une idée simple. Il faut avoir confiance en Dieu, confiance dans les autres et confiance relativement en soi. Parce que si vous n'avez jamais confiance en vous, vous ne faites rien. Mais il faut être capable de relativiser la confiance qu'on a en soi. Je crois que si on était capable d'avoir autant confiance dans les autres qu'on a confiance en soi, ça serait déjà pas mal.
Mais la confiance dans les autres, elle est souvent abusée aussi. Alors,
peu importe,
il faut prendre ce risque.
Elle ne peut être abusée que si elle existe. Mais vous ne pouvez jamais être abusé si vous ne donnez jamais votre confiance. Mais si vous ne donnez pas votre confiance, il n'y a plus de société. Et je crois que c'est cela, finalement, la société de Sodome et Gomorre, une société où chacun est étranger à ce que vit l'autre. Peut-être que le doute qu'on a, c'est le doute qu'on a envers nous, est-ce qu'on sera capable d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres? Ça, c'est un doute sain, parce que je me remets en cause. Et se remettre en cause, c'est toujours bien. Mais il y a un moment où il faut être capable d'agir. Et peut-être c'est ce doute-là. En tout cas, je crois que la notion de doute dans la Bible est essentielle pour comprendre notre lien à Dieu, pour comprendre notre lien aux autres, aux hommes, et pour comprendre notre lien à nous-mêmes.
Alors on ne doutera plus, c'est promis. Merci à Haïm Korsia, et à bientôt pour une prochaine rubrique.
Au revoir.